Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
L'Entertainment Lab by Newton Studio, c'est le podcast 100% Brain Entertainment. Créatifs, responsables de marque, directeurs de plateformes technologiques, Pure Players Entertainment et Communicant 3.0 nous partagent leur point de vue sur l'avenir des marques et du divertissement à l'ère digitale. Ce podcast est animé par Alexis Ferber.
Bonjour à tous, je suis ravi d'accueillir Leïla Salimi, qui est directrice de la communication au sein de la BRED. Bonjour Leïla.
Bonjour Alexis.
C'est un plaisir de t'avoir pour le podcast de l'Entertainment Lab. Tout d'abord, quelles sont les grandes lignes avant d'arriver à la BRED pour toi ?
Alors, les grandes lignes pour moi, j'ai commencé en agence de communication il y a déjà une quinzaine d'années.
Okay.
Donc, avec l'intérêt d'agence de communication, c'est qu'on y apprend l'orientation client. On y apprend à être très agile parce qu'on passe d'un sujet, d'un portefeuille de client à l'autre. On y apprend la gestion de la communication de crise. Voilà. Et donc, en agence de communication, j'y suis arrivée juste après la crise des subprimes. Un peu par hasard, on m'a positionnée sur la com de crise et les services financiers, qui est un peu le fil rouge de mon parcours. Et donc, à l'intérieur du pôle financier, j'ai un client qui, au bout de quelques années de collaboration, m'a débauchée en me disant « ce serait bien de vous avoir en interne ». Et donc, c'est comme ça que je suis arrivée dans le groupe Allianz. D'abord, dans la filiale d'asset management et d'investissement immobilier, qui était en train de se construire dans le monde. Donc, une aventure quasi entrepreneuriale dans un grand groupe. Et puis, comme un grand groupe à l'avantage de la mobilité, j'ai pu évoluer ensuite côté assurantiel. Donc, d'abord avec le périmètre de la communication interne. Et puis, un enjeu managérial plus grand, puisque je passais d'une petite filiale qui gérait quand même 60 milliards d'euros d'actifs à la maison mère.
Bah dis donc, bravo, voilà. Hein, quel parcours. Et, les études, tu étais dans quel background ? Économie ou école ou
classe prépa, droit, Sciences Po. Voilà.
Sciences Po, bon, ok, bah, super parcours en tout cas. Et donc, Allianz, plusieurs années hein, quand même, plus de 7 ans.
Donc,
je crois,
non, même 10 ans.
10 ans, 10 ans. Voilà. Et puis ensuite, BRED, donc depuis combien d'années ? Depuis
presque 2 ans.
2 ans, ok. Donc maintenant, directrice de la communication de la BRED. Alors justement, BRED, on va parler de ton activité de directrice de la com et puis de la BRED, qui est un peu moins connue pour les auditeurs. Alors, je crois qu'il y a le sigle, les gens ne savent pas tout ce que ça veut dire. Peut-être redire
Donc, la BRED, en fait, c'est la Banque Régionale d'Escompte et de Dépôt. Donc, évidemment, nous n'utilisons plus du tout la terminologie dans son ensemble. On parle de BRED et puis c'est une des banques populaires. Et le fait qu'elle est une marque à part, ça montre bien qu'elle est très unique au sein du groupe BPCE.
Voilà, qu'on connaît plus. Du coup, Caisse d'Épargne et Banque Populaire.
Absolument, deuxième groupe bancaire français. Et donc une banque complète puisque on a à la fois des activités de banque de détail mais aussi une salle de marché, une banque privée, une banque à l'international, ce que peu de gens savent puisqu'on est en Asie, Cambodge, Laos. On est la seule banque française et européenne dans ces pays-là et on opère avec la marque BRED en banque de détail. On est également dans le Pacifique, donc dans des contrées très exotiques comme Fidji, les îles Salomon, le Vanuatu.
C'est très outre-mer, la BRED, les gens ne le savent pas forcément. Alors.
Et effectivement, outre-mer, donc à la fois la Réunion et les Antilles, on a une marque qui est très puissante et une banque qui est une des leaders sur le marché.
Bon, donc une banque française, mais très ouverte à l'international.
Absolument.
Et donc, alors, les gens ils connaissent plus la Banque Populaire, qui évidemment est plus rentrée, je dirais, dans la tête. Pourquoi il y a eu ce changement de style ? Entre Banque Pop, je dirais, et BRED.
Alors, ce n'est pas un changement de style, c'est que la BRED est bien une banque populaire, mais elle a toujours gardé ce positionnement de marque et finalement ce positionnement aussi sur le marché qui est un petit peu à part puisqu'on est la seule banque populaire à avoir une offre complète, comme je le disais, avec tous les métiers de la banque. La majorité des banques populaires, enfin les autres banques populaires, sont uniquement sur de la banque de détail.
Alors, qu'est-ce qui se joue finalement en ce moment sur le marché des banques ? Donc, c'est quand même un marché, tu l'as dit, très concurrentiel. Il y a pas mal d'acteurs sur le marché. Il y a des enjeux variés entre l'épargne, les détaillants, tu l'as dit, etc. Et puis, un modèle peut-être un peu plus local, régional. D'ailleurs, c'était dans le sigle BRED. Qu'est-ce qui vous différencie, tu dirais, dans tout ce secteur ?
Qu'est-ce qui nous différencie? C'est ce que tu dis, effectivement. On est une banque de proximité, une banque des territoires. On est aussi une banque coopérative ou mutualiste. C'est un petit peu la même chose, donc avec un ADN très particulier. Nos valeurs, c'est la coopération, la solidarité, l'esprit d'entrepreneuriat et la proximité.
Proximité, d'accord.
Donc voilà, ça définit bien ce qu'on est. Et ensuite, sur l'univers bancaire de manière plus large en ce moment, c'est ce que les économistes appellent la fin de l'argent gratuit. Donc avec un contexte de montée des taux, de raréfaction de la liquidité, on est effectivement dans un contexte plus compliqué avec un ralentissement des crédits et de l'épargne.
Oui, moins d'achats immobiliers en ce moment,
voilà.
Hein, c'est sûr.
Effectivement.
Et cette inflation qui a monté un peu à la tête de tout le monde, ça, vous le sentez beaucoup ça? C'est quoi? Les gens sont un petit peu moins... font moins à la dépense, il y a un peu moins de taux et de commissions appliquées, ou je ne sais pas comment ça se passe un peu. On ne va pas faire tout l'exposé, mais...
Non, je pense que du côté des pros et des entreprises, on ressent effectivement, mais depuis l'année dernière, avec la crise énergétique et suite aux événements en Ukraine, on sent quand même que les entreprises, elles ont des problèmes d'énergie, c'est plus tendu.
Il y a les PGE à rembourser, il y a tout
ouais,
ça.
Ouais, donc on arrive beaucoup à des refinancements. Donc oui, c'est une période
charnière,
compliquée pour les ménages et les entreprises. Ouais.
Exactement. Les médias en font trop. Je sors un petit peu de mon rôle du podcast, mais c'est vrai que quand on parle à des gens de la génération, il y a des inflations très fortes il y a 20 ans. Et il se faisait pas tout
ouais,
et
puis c'est pareil pour la montée des taux, hein. C'est ce qu'on entend beaucoup des générations précédentes. C'est vrai que nous, on est une génération qui a connu des taux très bas,
ils
très longtemps.
Ils ont vécu des 8-10%.
Voire 15 pour certains, et certains ont emprunté avec des taux à deux chiffres.
Donc on en fait un peu aussi toute une histoire. Comme d'habitude, les médias mettent quand même pas mal d'huile sur le feu. Mais bon.
Oui, et après, c'est aussi retour à un cycle économique qu'on n'a pas connu depuis longtemps. C'est aussi ça.
D'accord. Écoute, on va rester quand même optimiste dans le podcast, puisque on est dans un média... qui reste inspirant et positif.
Non, mais après, voilà, la France a quand même des signaux. On a un secteur bancaire qui est très solide et qui est très régulé. Et du coup, c'est vrai que comparé à d'autres pays, je pense notamment aux États-Unis, etc., on a quand même cette confiance qui demeure.
Bien sûr. Donc, tu disais tissu local très fort. Donc, beaucoup de banques. Combien de banques au total? Il y a pas mal d'agences sur le territoire.
Oui, on a à peu près 500 agences.
500, donc c'est déjà super. Et alors, je sais que vous avez aussi une actu parce que vous êtes dans le sponsoring avec Paris 2024. Ça a été toujours un petit peu, j'ai l'impression, associé à la Bred, ce côté un peu centre d'intérêt sur le sport et le sponsoring.
Oui, absolument. Comme l'ensemble des banques populaires et du groupe BPCE, le sport fait partie intégrante de notre ADN. Et donc, on a à la fois le sponsoring voile pour les banques populaires qui est très important.
Pourquoi? Comment c'est venu ça, tu sais?
C'était
historique un peu.
C'est très historique et du coup, ça demeure encore aujourd'hui avec des skippers emblématiques. Et d'ailleurs, on aura même la traversée de notre maxi banque populaire avec Armel Lecléache, qui va transporter la flamme olympique sur le bateau. Donc, ça positionne quand même bien les banques populaires.
Ça partira d'où? De quelle
Alors,
c'est
il
de
me
Bretagne,
semble que ça part du Grand Ouest et ça arrivera sur notre territoire dans les
D'accord.
Antilles. Donc, voilà.
Alors, on va arriver sur ton métier plus de directrice de la com, qui est un métier que les gens... connaissent ou ne connaissent pas trop, donc c'est aussi l'idée de ce podcast, c'est d'amener un peu plus de concret. Comment tu nous définirais un peu au jour le jour tes différentes tâches? Et j'imagine que tu as pas mal de publics clés aussi, hein. Il n'y a pas que les PR, les médias, il y a aussi les clients rassurés, etc. Comment toi tu t'y prends dans ta journée? J'imagine qu'il doit y avoir pas mal de facettes.
Ouais, je pense que c'est un peu le double face de ce métier-là, c'est qu'à la fois, il faut être sur des sujets très stratégiques, mais en même temps, il faut être aussi hands-on, il ne faut pas se le cacher.
Opérationnel.
Très opérationnel. Et donc, nous, on est là pour construire, décliner la stratégie de communication, pour accompagner le dirigeant, les membres du COMEX, évidemment. Ça fait partie des missions prioritaires.
Oui, bien sûr.
Mais je dirais qu'on est aussi là pour être à l'écoute du terrain. Il faut qu'on comprenne l'écosystème dans lequel on évolue, en l'occurrence la banque pour moi. Et je dirais qu'aujourd'hui, le dialogue est vraiment au cœur de la communication. Parce qu'on est là pour le storytelling, pour construire le récit de l'entreprise. Mais il faut aussi, c'est ce que je disais, écouter et plus du tout avoir une approche verticale finalement de la communication. Et puis
un peu comme ta consoeur de Netflix qui a dit j'ai beaucoup aimé Context Not Control pour ça j'ai trouvé ça d'une modernité un peu marquante.
Absolument.
Et le deuxième truc qu'elle avait dit, c'était Freedom and Responsibility. Ça, j'ai trouvé ça assez puissant aussi sur le management.
Ouais.
Je pense qu'il y a pas mal de boîtes françaises
qui devraient s'en inspirer.
Oui, ouais, même les petites en vrai, hein, parce que après, c'est un challenge, c'est dur de le lire comme ça. Mais...
Et puis, ils ont leurs grands principes de nouveaux hein, pour les citer.
Les no rules, mais c'est vrai que. Donc, toi, tu essaies d'avoir ce côté un peu à l'horizontale, un petit peu plus start-up avec tes équipes
ouais,
et tout ça.
Justement, c'est ce que je disais. Nous, on est une banque qui a été créée par des entrepreneurs et du coup, ça infuse dans la culture d'entreprise. Parce qu'on a une vraie agilité. C'est aussi pour ça que les clients viennent nous voir par rapport à des banques plus grosses.
Mmh.
Et on a cette capacité d'agilité de répondre très vite à leurs besoins. On a un circuit de décision et de validation qui est très court, ce qui est très rare. J'ai connu d'autres organisations, donc j'en apprécie
la liberté,
liberté et cette rapidité. Et du coup, c'est sûr qu'à l'échelle de la direction de la communication, on essaye aussi de vraiment être dans cet esprit-là. Voilà. Et donc, pour finir, on a quand même un sujet qui est la gestion de crise permanente. Aujourd'hui, les crises sont multiples, elles sont protéiformes, ça fait partie du run et du quotidien. Donc voilà,
ça t'aime bien ou c'est difficile ça?
J'aime bien parce que je pense que ça me vient un peu de mes années d'agence.
Tu voulais être pompier quand tu étais jeune, non?
Non,
pompière.
Pas du tout, je suis pas là pour éteindre les feux en permanence, mais bon, il y a un côté stimulant, adrénaline qui me déplaît pas. Et puis
d'accord.
Comme j'ai été formée en agence, c'est quelque chose que
ça
tu connais. Voilà.
Ok, bah, écoute, c'est intéressant de savoir qu'il y a le volet communication de crise aussi dedans. Et donc, alors, ce qui est intéressant dans ce que tu as dit au début, je pense que les gens n'ont pas toujours mesuré, c'est que tu es vraiment entre le management COMEX et finalement le côté un peu plus équipe, opérationnel.
Tout
donc, c'est pas évident. Il faut être aligné entre la strat et un côté très opérationnel derrière.
Tout
c'est quoi
fait.
C'est un point mensuel avec les COMEX et tout ça à peu près ou...
Alors, moi, j'ai la chance de participer au comité
dedans,
exécutif. Je suis dedans, donc
ouais.
Ça me semble essentiel parce que ça me permet d'écouter les problématiques, les sujets et tout ce qui nous occupe quand même.
Au
quotidien à la banque et puis les grands sujets macro, les problématiques clients, donc c'est clé d'y être. Et après, c'est évidemment comment moi après je digère ça et comment je le rebascule
d'accord.
dans les sujets de communication et comment je le comprends. Et soit je me dis ça c'est des sujets qui ne doivent pas sortir, soit au contraire se dire comment est-ce qu'on peut capitaliser en com interne et puis en relation média dessus. Voilà.
Et donc après tu as toute ta ligne éditoriale, ton cas, parce que ça c'est l'enjeu après sur des années des boîtes comme la tienne, il y a quand même vachement de sujets à couvrir.
Ouais.
Ça t'arrive à avoir un visu sur toutes les actions ou parfois
le sujet c'est presque la priorisation parce qu'on a envie de parler de tous les métiers, de tous les sujets, les offres qui sortent, le sponsoring, etc.
Ouais.
Donc c'est à la fois être cohérent.
Qu'est-ce qui est le plus important, prioriser,
aligné,
quoi.
Prioriser. Et puis éviter d'être dans la cacophonie et l'infobésité, pour utiliser un
d'accord.
mot pas très élégant, mais voilà.
Okay. Et après, public clé, tu dois tout gérer, quoi. Il y a à la fois les médias, il y a à la fois le grand public, il y a les clients, il y a les, mais c'est du protéiforme, quoi.
Ouais, c'est du protéiforme.
Donc, il y a un public que tu apprécies plus que d'autres, ou en vrai, tu aimes bien toute la variété caméléon sur tous les publics?
Non, j'aime bien la variété, parce que...
c'est la richesse du métier, quoi.
Oui, les collaborateurs, c'est quand même aussi une cible
aussi.
Importante.
Ouais.
Les journalistes...
C'est clé,
c'est une de tes cibles prioritaires. Et puis effectivement, les clients, je dirais, c'est presque le moment de parenthèse. On les rencontre notamment pour le rapport d'activité, pour couvrir des histoires clients. Donc voilà, c'est là que tu ressens aussi toute la mission sociale, économique d'une banque. Tu finances...
C'était plus concret du terrain, quoi.
Tu finances quand même des entreprises, des pros. Et voilà,
non,
et là, tu ressens
super,
quand même...
En tout cas, je pense que les gens qui écoutent, ça va leur donner envie parce que c'est vraiment un job qui a l'air passionnant, en tout cas tel que tu le racontes.
Bon, et puis après, sur les sujets, évidemment, quand même aussi importants, c'est manager l'équipe et piloter le budget.
Ah bah
ça,
voilà.
Faut pas l'oublier. Ça fait partie du run et du quotidien.
Équipe de combien de personnes, donc
10 personnes.
Et alors, juste pour finir cette partie sur l'angle métier, donc tu étais avant dans le monde des assurances. En quelques mots, bon, souvent il y a un cousinage, on dirait, entre banque et assurance, mais qu'est-ce que ça change un petit peu finalement entre l'univers que tu as connu avant, qui était déjà une belle boîte, et maintenant Bread?
Je dirais que, ma perception, c'est que quand tu es dans les assurances, tu interviens quand même pour les sinistres et les aléas de la vie.
D'accord.
Et je dirais que la banque a un côté beaucoup plus positif
d'accord.
et agréable.
Okay.
En assurance, t'es quand même à chaque fois qu'il y a un gros incendie, une inondation, une tempête, un ouragan, etc. Voilà.
C'est un peu la fin du monde, quoi. Enfin, on va pas aller jusque-là.
Voilà, mais... c'est quand même très impacté par les sinistres. La banque...
est au cœur de l'économie et donc a des problématiques très variées.
Et puis, t'es au cœur des projets de vie et des projets de vie plutôt joyeux. Les projets de vie et d'entreprise, quand t'as accompagne des gens à concrétiser leurs projets, c'est quand même très positif. Et quand tu rencontres des clients qui te disent bah, grâce à vous, j'ai pu monter ma boîte ou j'ai pu financer mon appart, etc.
D'accord.
Bah, y a quelque chose de presque joyeux. Hein.
Et donc là, vu ce que tu as dit au début, j'imagine la grande priorité maintenant en France, c'est, on sait plus aujourd'hui reconstituer son épargne qu'acheter c'est de l'immobilier quand même. C'est un peu ça le sujet.
On accompagne toujours quand même les gens qui ont des projets immobiliers. Il ne faut pas dire qu'on ne le fait plus.
Mais ils ont, il faut l'être motivé cette année. De tout ce que j'entends d'amis ou autres... On revoit un petit peu quand même.
Ouais, mais... c'est ce que tu disais tout à l'heure. On est aussi sur un comparatif dans les dernières années où les taux étaient très bas.
Voilà.
Mais quand tu reviens à des cycles il y a 20 ans, etc., finalement, on n'est pas...
D'accord. Ok, super. Alors, on va arriver sur l'aspect aussi de ce métier de communicant, puisque tu le fais quand même depuis plusieurs années et tu l'as fait avant chez Allianz. Donc, le digital, il est omniprésent maintenant, évidemment, dans ce mix. Comment tu vois ça, toi, cet essor du numérique, du contenu, du social media ça...
Je dirais que c'est un sujet depuis plus de 10 ans, hein, la com digitale. On n'est pas sur de la disruption
bien sûr.
Voilà, le virage est fait, les contenus social media, digitaux, on y pense évidemment en essayant de faire des contenus impactants, percutants. Je dirais qu'un des enjeux encore, c'est d'accompagner les équipes dirigeantes.
D'accord.
Sur leur présence digitale. Je pense que le shift n'est pas encore tout à fait
fait. Le fameux PR digital, personal branding. Quoi.
Ouais. Le shift n'est pas encore tout à fait là. Donc évidemment, tu as des dirigeants qui sont très appétents, très visibles et qui ont vraiment conscience de cette influence.
Les best practices? On cite toujours Michel-Édouard Leclerc. Toi, tu trouves, c'est qui les 2-3 que tu trouves bons en vrai?
Si je devais donner des exemples proches de moi, je dirais Nicolas Dufour pour BPI France.
Lui il est fort, lui.
Qui est très bon.
Mais ils ont des gens qui animent leur page, ils ne peuvent pas tout faire tout seul. Il y a du taf derrière.
C'est souvent des agences.
Tu as raison que ça devient un vrai métier, le personal branding, parce qu'il a un peu plus d'audience aussi. Et de
rester quand même cohérent et d'être là pour servir sa boîte. Tu n'es pas que là pour faire du personal branding, mais c'est du thought leadership et en même temps du personal branding. Voilà.
D'accord. Tu es dans ce côté un peu Sherpa sur ces aspects, quoi. Tu les coaches un peu.
Oui, c'est
du taf, hein, j'imagine.
C'est du taf. Et puis, alors nous, on a la chance d'avoir un dirigeant qui y est. Qui est appétant.
D'accord.
C'est pas le cas du reste du COMEX.
On va le citer d'ailleurs, monsieur
Jean-Paul Julia.
Jean-Paul Julia.
Voilà. Mais le reste du COMEX n'est pas forcément au même niveau. Et comme je disais, il y a certainement un shift générationnel qui arrivera à un moment. Et voilà. Et on réfléchit tous à des digital boards, à comment je fais parler, comment j'anime ces contenus, comment je les pousse. Comment je les mets chacun sur un sujet donné, l'un qui sera sur les sujets peut-être. Marché pro, l'autre sur les sujets d'engagement RSE, voilà.
Ce que tu viens de dire sur les managers, c'est vrai aussi, j'imagine, pour tout ce qui est marque employeur, qui devient de plus en plus important avec l'ambassadorat, tout ce qui est employé advocacy, ça devient
absolument
gros dans les boîtes.
Alors la marque employeur, en plus pour nous, c'est un vrai sujet. On a un secteur central de secret qui a un déficit d'attractivité. Donc il faut aussi savoir renouveler sa marque employeur. Et donc nous, par exemple, cette année, on a fait une campagne avec un influenceur qui s'appelle Tonton Karim,
Tonton Karim,
qui dépoussière le genre.
Il faisait quoi, Tonton Karim, à la base?
C'est
pas Tonton David, hein, l'ancien chanteur.
Non, c'est pas Tonton David, il est beaucoup plus jeune, mais bon, qui vient du milieu du recrutement et qui a eu l'idée de faire comme ça des contenus pour les entreprises.
Un peu coaching,
donc,
quoi.
Ben non, nous, on a fait une vidéo avec notre DRH qui a accepté de se mettre en situation de gamer, puisqu'il jouait à Mario Kart.
Ah oui, carrément.
Et qu'en même temps, il faisait une interview absolument sérieuse sur le fond, sur les enjeux d'une banque, du recrutement.
Vous êtes très entertainment, en fait.
Voilà.
À l'occasion de la sortie de Mario Bros.
Exactement. Mais voilà, c'était un move un peu audacieux pour donner envie aux jeunes.
Et tu as un petit événement où c'était que du digital?
Non, c'était que du digital. Et voilà, il a une jolie plateforme digitale, Tonton Karim. Donc,
tu partages alors, on a eu Florence de chez... C'est l'avantage du podcast, c'est que je commence un peu à avoir des référentiels. On a eu Florence de Crédit Mutuel qui disait qu'il y a un vrai enjeu quand on bosse avec les influenceurs ou les talents, de quand même bien scripter et de bien cadrer les prods, parce qu'on n'est pas en pure influence où les gens sont en roue libre, surtout dans des boîtes comme la tienne. Comment tu vis cette...
On a évidemment, là tu reviens à ton contrôle.
Oui, je reviens à mon métier, entre guillemets, mon zone d'intérêt sur les créatifs. Mais...
L'idée c'était quand même d'être très libre dans le format,
d'accord,
mais dans les messages d'être quand même évidemment assez corpo et okay. pertinent.
Donc tu avais quand même scripté, il y avait le brief, il y avait la prod.
On avait scripté, on avait écrit, etc. Même si j'ai un DRH qui est très très bon et qui porte parfaitement les messages. Donc,
bon, intéressant. Voilà. Donc justement, alors, ce qui intéresse aussi, alors Dircom aujourd'hui, j'imagine que tu as une homologue ou un homologue Dirmarket, ou c'est aussi dans, c'est regroupé avec la
non,
communication.
Non, effectivement, une homologue.
On va saluer aussi, comme ça, ça va faire très collaboratif.
Ben, on embrasse Marie-Laure Panot.
Ah, ben, voilà, Marie-Laure, on l'embrasse aussi. Et donc, effectivement, les expertises. Moi, ce qui est intéressant aujourd'hui, je pense, qui se joue, qui est pas facile dans ton métier, c'est bon, il y a à la fois tes équipes internes, t'en as parlé, une dizaine de personnes, et puis il faut aussi agréger des expertises externes, des agences, etc. Mmh. Comment tu vois l'orchestration de ce mix aujourd'hui, qui devient pas si simple pour une personne comme toi?
Oui, après.
Bon, c'est une question un peu agence, parce que nous, forcément, c'est.
Après un certain nombre d'années dans le métier, tu sais avec qui tu as envie de travailler, tu sais
alors
avec qui tu
ça.
Bosses bien,
d'accord.
Avec qui ça fonctionne, et finalement, voilà. Et en même temps, il faut aussi sortir de sa zone de confort et okay. aussi aller chercher des plus petits, des plus
agiles,
ou en tout cas nouveaux, avec des positionnements différents, etc. Donc, c'est à la fois s'appuyer sur les compétences qu'on connaît et mm-hmm. avec qui on travaille depuis longtemps, et puis aussi aller. Voilà, typiquement, Tonton Karim, c'était
plus spécialisé
et c'était un pari.
Toi, tu préfères plutôt agence spécialiste que des agences généralistes
Moi, je suis plutôt sur de l'agence spécialiste que sur du généraliste. Je ne suis pas okay. accompagnée en 360 sur tous les sujets.
D'accord. Par contre, il y a un enjeu derrière d'orchestration, ça veut dire d'avoir tes calendriers ultra, il faut être super organisé derrière.
Et en même
derrière.
Temps, je pense que ce qu'on a aussi beaucoup appris en interne aujourd'hui, c'est d'être aussi en mode agile comme les agences, d'être un peu 360.
D'accord. C'est-à-dire que tu n'as pas... vous devenez un peu comme des agences internes un petit
ouais,
peu.
Alors, et c'est encore le même paradoxe, tu vois, à la fois sur la dimension conseil stratégique, mais en même temps sur le côté très agence, puisque dans nos délais très compressés et de plus en plus compressés, on vit quand même sur un calendrier resserré, sur des urgences permanentes et des priorités permanentes. Donc, il faut aussi qu'il y ait certains sujets que tu puisses intégrer en interne par tes équipes. Donc, il faut toutes les compétences aussi en interne. Et je le redis, il faut être aussi hands-on par moment.
D'accord.
Donc, il y a aussi de la prod qu'on fait en interne.
Et
j'ai la chance d'avoir des compétences créa, des compétences vidéo, montage, une personne qui peut faire du motion.
Ok.
Donc,
ah ouais, vous êtes équipés, quoi.
On est quand même équipés et on peut faire pas mal de choses.
Comment tu vois ce sujet? Parce que moi, c'est toujours un sujet qui m'a fasciné dans les boîtes, c'est les dircoms, les dirmarques, tout le sujet des prêts, et tu l'as dit, du lien au comex, tout ça. Il y a des boîtes où tu passes ta vie dans des réunions, etc. Toi, quel point de vue tu as là-dessus? Parce qu'il y a un moment où il faut que tu sois concentré, que tu tombes tes plans, et puis il y a le moment, comme tu dis, où tu transmets. C'est quoi? C'est du moite-moite, tu dirais entre...
J'essaie de faire du moite-moite. Quand j'ai commencé il y a quelques années à manager une grosse équipe, j'étais dans ce tunnel de réunion toute la journée.
Ah oui.
Et puis j'arrivais à 18h.
T'aimais bien ou c'était trop?
C'était trop.
Ouais.
Et j'arrivais à 18h avec ce enfin,
ah oui, tu tapais les presses jusqu'à 23h.
Et de valider, relire, etc. Et donc ça, c'est évidemment... quelque chose que tu essayes d'équilibrer ensuite en disant déjà je suis pas essentielle à toutes les réunions, je peux en refuser, je peux aussi déléguer aux gens de mon équipe parce que j'ai pas besoin d'être sur tous les sujets.
Oui.
Et effectivement le bon mix, c'est à la fois d'être sur les sujets clés que tu portes toi, enfin évidemment en comité exécutif c'est essentiel que j'y sois, et voilà, et ensuite de jouer le rôle du manager qui démultiplie, qui amplifie auprès de l'équipe les sujets.
Et puis, t'as un gros métier sur l'écrit quand même, parce qu'à l'ère de ChatGPT, le métier de communicant, c'est quand même avant tout les messages, ce qu'on raconte, un peu le temps long. C'est ça, et je sais pas si tu vis ça aussi, c'est pas facile ça.
Oui, alors la banque, on est sur du temps long, on a cette chance-là. Donc,
oui.
Non, mais.
Ce que je veux dire, c'est qu'il faut faire attention. Quand tu valides un contenu qui sort, il y a quand même beaucoup de
monde.
Et
puis, il faut être audible aussi,
voilà.
Surtout dans notre secteur où. Il y a toujours aussi un petit peu de bank bashing facile.
Okay.
Donc, il faut que tu sois audible, il faut que tu sois pertinent, il faut que tu te distingues des autres, qu'on n'ait pas l'impression de tous être sur le même corporate bullshit, pour le dire élégamment. Donc oui, c'est un enjeu. Les contenus, ça reste essentiel dans notre métier.
L'éditorial,
ouais.
Alors justement, on arrive à la dernière partie du podcast sur l'Entertainment Lab. Nous, on aime bien évidemment tous ces sujets de storytelling, de contenu, de nouveaux formats, des nouveaux médias, du social media. Qu'est-ce que tu trouves intéressant qui bouge dans cet univers, toi, sur des nouvelles manières de raconter les choses, des nouveaux formats, des outils peut-être?
Alors, je vais rebondir peut-être sur la partie outils, mais ça, je pense que je ne serai pas innovante. Nous, on a un outil d'employé advocacy à la Bred pour LinkedIn qui fonctionne bien.
D'accord.
Et en fait, on a un mid-management qui est très, très, très actif et très engagé. J'ai rarement vu ça dans une boîte.
Ok.
Et du coup...
Ça s'appelle comment, ce outil
tu... Sociable.
Ah oui, Sociable, c'est connu.
Voilà,
ça.
C'est connu. Et effectivement, déjà, tu comprends que la porosité entre interne et externe, elle est là. Il n'y a absolument plus de cloisonnement. Que LinkedIn est presque devenu le lieu de la fierté d'appartenance à la boîte.
Mais c'est vrai, c'est un clé.
Et que voilà, c'est presque ton premier réseau social d'entreprise. Donc ça c'est
ça. Ça c'est utile, vous l'utilisez tous quoi.
On l'utilise tous. Et puis évidemment, comme dans mon métier, tu le disais, il y a aussi une dimension encadrement, pour pas dire contrôle. Ça nous permet de pousser des contenus corporate entre guillemets validés. Mais ça fait aussi, ça permet aussi à nos opérationnels de pousser eux-mêmes du contenu qu'on peut à nouveau.
Donc ils repartagent sur leur propre page, c'est ça un peu l'idée.
Et puis tu vois, et puis l'idée aussi que même si on publie la même chose, on n'a pas les mêmes réseaux, on n'a pas la même amplification, et finalement c'est pas grave.
D'accord.
On n'est pas cacophonique parce qu'on a publié la même chose sur la stratégie de la banque, sur le nouveau produit.
Tu vois vraiment un effet de levier. Oui, ça fait un gros effet de levier dans les communautés. Ça. Vous êtes à combien? J'imagine plusieurs centaines de milliers. C'est des gros.
Alors, si je dois te donner les chiffres. On est à plus de 40 000 abonnés. Pour te donner des campagnes récentes, on a participé aux Assises de la parité. Puisqu'on a la chance d'être dans une banque, comme tu le sais, qui porte les valeurs de la coopérative et l'égalité des chances, plus précisément l'égalité femmes-hommes. Moi, j'ai la chance d'avoir un COMEX qui est presque paritaire, ou en tout cas où les femmes ont vrais jobs clés. Donc, la directrice du développement est une femme, la DGA en charge de l'IT est une femme, la directrice du back-office est une femme, la directrice de la BFI est une femme. Donc, on est vraiment
Woman power, là.
Ouais.
Vous avez tous des posters de Michelle Obama dans le bureau? Non, c'est
une petite blague. Voilà. Okay. Mais du coup, on a participé aux assises et on a capitalisé sur les posts qui ont été publiés par nos différentes porte-paroles.
Tu crois que c'était un choix? Alors, je pose, désolé, là, je sors du lieu, mais est-ce qu'il y a plein de débats là-dessus? Mais c'était vraiment un choix, tu penses, d'aller sur ces recrutements ou tout simplement, c'était des personnes qui étaient compétentes et qui le méritent? C'est un mix des deux? Ça pose des questions. Là, je lance un débat compliqué sur tout ce qui est dit, qu'on a appelé aux États-Unis.
Je pense qu'elles méritent amplement le job. Elles ont évidemment
Mais il faut que les boîtes poussent aussi. Il y a un peu de ça. C'est les deux.
Je pense
quoi.
Qu'aujourd'hui, toutes les boîtes, quand même, essayent au moins d'avoir une femme dans leur succession plan, dans les processus de recrutement, de pousser quand même. Les femmes dans le management,
mais
les
parité
accompagner.
Au COMEX, c'est pas rien en France sur des boîtes comme ça.
Alors, c'est pas la parité absolue, mais en tout cas, elles sont très représentées. Et ensuite, il reste évidemment dans nos métiers des activités où il y a moins de femmes, on va pas se le cacher. Typiquement, la salle des marchés, on peut pas dire qu'on ait beaucoup de femmes. La banque privée, c'est au contraire un endroit où il y a beaucoup de femmes.
Il y a des métiers plus masculins, forcément. Voilà. Communication, c'est quand même des métiers historiques un peu plus que tournés féminins.
Mais je suis la première femme d'IRCOM de la Bred. Avant moi, j'ai toujours eu des hommes.
Donc félicitations, en tout cas, pour ce super job. Alors, on arrive maintenant à la dernière partie. C'est plus la question, la plus création pour les invités. Là, je sors de la partie corporate, je dirais. Et donc, c'est tes goûts en matière de ciné, séries télé, BD, musique. Plus tes goûts personnels, je dirais, de spectatrice ou d'auditrice.
Je vais pas être très originale, mais je pense que je suis une grosse consommatrice de plateformes de streaming.
Ah oui. Dont celle qui commence par un N
celle qui commence par un A. Je suis aussi protéiforme.
Ah oula, voilà. D'accord, t'es multiplateforme comme beaucoup.
Je pense que la pandémie nous a fait basculer dans le monde du streaming.
D'accord.
Voilà, si je devais te citer des séries que j'aime bien, cette année j'ai beaucoup aimé la saison 2 de White Lotus.
D'accord. Redis le pitch de White Lotus, j'ai pas tout vu moi.
C'est un groupe qui se retrouve dans un hôtel de luxe en Sicile. Et c'est des personnages assez fantasques.
Barré,
un peu
quoi.
Perché, etc.
C'est un peu,
sans barré.
T'as pas vu le film Sans
Filtre?
Sans Filtre,
si, je l'ai vu aussi.
C'est dans le même style un peu.
Un petit peu. Et puis évidemment, l'intrigue, tu as l'impression de la comprendre, mais t'as des surprises. Voilà, plutôt bien tourné. Et puis des personnages.
Un peu décalés.
Un peu décalés. Donc à la fois drôle mais féroce.
Et alors la toute dernière question, c'est la question de transmission que je pose habituellement. C'est le conseil que tu donnerais à un ou une jeune, on va dire, qui aimerait s'élancer vers le métier de directeur de la communication. Alors, il ne commencera pas tout de suite directeur de la ou directrice de la communication, mais qu'est-ce que toi, tu aimerais transmettre par rapport finalement à ton parcours et ce que tu aimerais
Il y a deux aspects. Il y a à la fois la partie métier. Je pense que quitte à avoir un discours plutôt conservateur, c'est rappeler aux jeunes générations que l'écrit, ça reste
la base,
essentiel. Savoir écrire, savoir articuler ses idées, les mettre en musique, voilà. Donc
ça commence l'exercice. Donc c'est un peu plus lire évidemment en papier, de pas être toujours sur les écrans. Absolument. Comment tu, qu'est-ce que tu conseilles par rapport à ça? Parce que ça, c'est un vrai sujet que tu dis.
Bah, c'est, j'espère dans leur cursus de formation avoir aussi des ateliers d'écriture, être amené à écrire, lire la presse aussi. Ça, c'est essentiel. Moi, quand j'ai commencé en agence, je faisais la revue de presse pour les clients à 7h du matin tous les jours.
Tu le fais tous les matins, t'as les échos, t'as les 5
voilà,
trucs
sur
la...
Voilà, donc tu stabilotais à l'époque en mettant les post-it, etc.
Ça. À l'ancienne.
Tu scannais les articles ou presque. Donc voilà, oui, lire la presse aussi, c'est essentiel.
Tu continues à le faire tous les jours en mode papier, t'arrives ou tu...
Je lis en mode papier. Alors j'essaye de lire au moins les échos, Figaro, L'Opinion, enfin les médias.
Tous les jours t'arrives?
Ouais.
J'essaye. T'as tous les deux jours?
Mais non, j'essaye. J'essaye. J'ai un petit moment sacré, c'est le café quand j'arrive au bureau.
Ça, c'est bien parce qu'il y a un charme qui reste. C'est comme dans les avions, quand tu avais le papier avant, t'as un petit moment où tu redéfriches, quoi.
Absolument. Donc voilà, l'écrit, le digital, c'est très bien.
Donc tu arrives à faire de la détox, j'en déduis. T'arrives, parce que ça, c'est un gros enjeu pour toi qui dois être tout le temps connecté. T'arrives à un peu parfois déconnecter ou c'est difficile?
Non, c'est très difficile. Et puis.
Oui, tu dois être tout le temps en temps réel sur les infos et les
Absolument,
trucs.
Absolument, pendant les vacances aussi. Enfin, tu déconnectes jamais vraiment.
Okay.
Mais ça fait partie du job et moi, je ne le vois pas comme une souffrance. J'arrive quand même à avoir des jolis moments personnels. Donc. Voilà.
Sport, un peu de sport ou pas pour...
Non, même si on est sponsor des JO, mais pas trop. Et puis, je ne l'ai quand même pas dit, petite parenthèse, moi j'ai la chance d'avoir un collaborateur qui est épéiste, champion du monde d'escrime par équipe.
Pas mal.
Je vais le citer, Alex Fava, qui est en train de se qualifier pour les JO.
Il va être même sélectionné, tout ça.
On lui souhaite, donc on lui envoie plein de bonnes ondes et on pense fort à lui. Et,
il est dans l'équipe, comme ?
Ouais.
Double cursus, compétiteur d'un côté et communicant de l'autre.
Un profil absolument intéressant et qui écrit très bien. C'est pour ça que je pensais à lui. C'est un peu la plume de l'équipe.
Ça, c'est intéressant ce que tu dis sur les personnes qui peuvent avoir un double parcours, une passion par ailleurs.
Tout à fait.
Et peut-être que les entreprises valorisent un peu plus ça, parce que c'est vrai qu'on est dans un pays où on a souvent tendance à mettre tout dans des cases. Mais comme tu dis, on peut avoir un talent sportif caché, un talent d'écriture.
On a la chance d'avoir des grosses entreprises qui peuvent intégrer ce genre de profil, les suivre, parce qu'il est à la fois collaborateur mais aussi ambassadeur de notre marque, donc c'est très chouette. Et alors sur la transmission pour finir, moi j'ai quand même évidemment un petit mot pour le secteur bancaire et celui des services financiers en général. La banque, c'est quand même au cœur de l'économie, c'est un secteur qui donne du sens. Je sais que les jeunes générations sont quand même toutes en recherche de sens, donc ce qu'on fait c'est tangible, c'est accompagner les projets, c'est accompagner voilà, c'est articulé autour de l'humain.
Mais tu nous as convaincus, Léla. Moi,
voilà,
je postule demain. Donc, postulez
tous.
Ce n'avons pas, ça ne vend pas des séries, mais c'est une sacrée boîte qui fait des trucs vraiment incroyables. Et peut-être pour finir, tu as eu la chance de faire les studios Netflix en Espagne. Ça, je suis curieux. Et ça t'a marqué c'est la semaine dernière que tu as eu la chance de faire
Il y a 2 semaines, c'était très impressionnant.
C'est grand, c'est des très grands studios.
Oui, je crois que c'est les plus grands en Europe qu'ils ont après c'est aux États-Unis.
On va se lancer un long métrage.
Une très belle marque et une très belle culture d'entreprise comme tu le disais, et on salue Anne Gabrielle.
Voilà, et puis on lancera le long métrage évidemment pour la Bred tournée au studio Netflix
évidemment.
Merci beaucoup Leïla, c'était un grand plaisir de t'accueillir pour ce podcast.
Merci beaucoup.
Pour ceux qui sont encore avec nous, merci de nous avoir écoutés. Pensez à aller mettre une note au podcast dans la section notes et avis sur Apple Podcasts. Cela nous ferait énormément plaisir et nous permettrait de continuer à faire grandir ce podcast consacré au Brain Entertainment. À bientôt pour un nouvel épisode.
Hi, this is Craig Robinson from Ways to Win, and support for this podcast comes from Invesco QQQ, the official ETF of the NCAA. Invesco QQQ is proud to sponsor this episode and even prouder to provide access to innovation for the last 25 years. Basketball has had innovations over the years too. We're seeing the game played in new ways every day. Learn more at Invesco.com/QQQ. Let's rethink possibility. Invesco Distributors, Inc.
Planning for your next trip? elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.